est-ce qu'il est encore passé, ce maudit chat?
Le monde merveilleux du travail. Sur Radio Libertaire, 89.4 MHz. Bienvenue dans le monde merveilleux du travail, l'émission des travailleurs du commerce et des industries de l'alimentation, bien sûr, qui en fonction de l'actualité, qu'elle soit politique, commémorative, des luttes sociales, reste avec nous, ne tombe pas, des rencontres de personnes charmantes par ailleurs, qui peuvent être sur des projets qui peuvent être une alternative altruiste et autogestionnaire à la société de classe que nous conchons. L'anime en direct, chaque premier, troisième et cinquième lundi du mois, de chaque mois d'ailleurs.
En improvisation.
En total, sans retenue, d'ailleurs je l'ai prouvé il y a 5 minutes, ni complaisance sur leur 8 heures de loisirs quotidien pour la diffusion de l'anarcho-syndicalisme, du syndicalisme révolutionnaire et de la bonne parole, s'il en est.
L'édito du monde merveilleux du travail du lundi 16 juin 2025 des calendriers grégoriens ou 28 prairial du calendrier républicain révolutionnaire français, officiellement dénommé jour du thym. Bon, on s'en fout de ça. En 1869, en France, lors d'une manifestation contre l'arrestation d'un groupe de mineurs de fond, grévistes, la troupe tire sur la foule, faisant 14 morts, dont un enfant de 3 ans. C'était la fusillade de Brûlé, à la Ricamari, près de Saint-Étienne. Les mineurs grévistes demandaient alors l'augmentation des salaires, la journée de 8 heures, une des revendications de l'AIT, et surtout la mise en place d'une caisse de secours unique, regroupant les caisses de secours des compagnies et la caisse autogérée des mineurs. On ne peut pas leur en vouloir. À cette époque, ils n'avaient pas vu le film Noix de coco dans lequel Groucho Marx porte, pourtant sans lien, avec un homonyme, alors directeur d'hôtel, reprochait à ses employés un trivial matérialisme qui n'y pouvait que les rendre esclaves de l'argent. Fit donc des augmentations de salaire à l'aube du crash de 1929, n'avait-il pas raison? Pourtant, en 1953, des prolos s'obstinent. Un soulèvement populaire éclate à Berlin-Est et dans le reste de la République démocratique allemande, la RDA. Le 16 juin 1953, donc, se prolongent les jours et semaines suivantes. Le motif immédiat en est le refus de la hausse des cadences de travail sans augmentation de salaire. Résultat, au moins 80 morts et 25 000 arrestations. Heureusement, le grand Staline n'a pas vu ça. Il s'était éteint 3 mois plus tôt, ça l'aurait tué. Une dernière date qui nous amène à notre sujet de ce soir, à peu près. Le 16 juin 1875, l'archevêque de Paris et cardinal Guibert pose la première pierre de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Notre sujet, ce n'est ni le Sacré-Cœur ni l'archevêque, non, mais c'est le catholicisme social, le deuxième volet d'une série de 2 émissions entamées le 7 avril 2025 et que vous retrouverez en podcast sur le site de radiolibertaire.org. Après le syndicalisme mièvre de la CFTC et du CECI, nous aborderons la JOC et les prêtres ouvriers comme contre-courant social au communisme dans un contexte de guerre froide. C'est Bénédicte, dont le nom ne laisse plus planer aucun doute sur son orientation spirituelle, qui assure la technique, régie et lancera les musiques sacrées. Je n'invente rien. Et Eric, l'ayatollah du syndicalisme révolutionnaire, et je pèse mes mots, enfoncera le clou des superstitions liturgiques, comme disait Jésus, et animera l'émission comme on donne la messe en haut de la butte Montmartre. Vas-y la régie, envoie ta scolastique musicale.
« Est-il en notre temps rien de plus odieux, de plus désespérant que de ne pas croire en Dieu? Je voudrais avoir la foi de mon charbonnier, qui est heureux comme un pape et con comme un panier. Mon voisin du dessus, un certain Blaise Pascal, m'a gentiment donné ce conseil amical. Mettez-vous à genoux, priez et implorez, faites semblant de croire et bientôt vous croirez. Je me mis à dépiter les rotuleux à terre, tous les Ave Maria, tous les Pater Noster, dans les rues, les cafés, les trains, les autobus, tous les déprofondis, tous les morbionibus. Sur ces entrefaites-là, trouvant dans les orties une soutane à ma taille, je m'en suis travesti. Et ton suré de frais, ma guitare à la main, vers la foi salvatrice, je me mis en chemin. Je tombais sur un boisseau, punaise de sacristie, me prenant pour un autre en querelle, m'ont dit. Mon père, chantez-nous donc quelques refrains sacrés, quelques saintes chansons dont vous avez le secret. Grattant avec ferveur les cordes sous mes doigts, j'entonnais le gorille avec putain de toi. Criant à l'imposteur, au traître, au papelard, elles veulent me faire subir le supplice d'Abélard. Je vais grossir les rangs des muets du sérail, les belles ne viendront plus se pendre à mon poitrail. Grâce à ma voix coupée, j'aurai la place de choix au milieu des petits chanteurs à la croix de bois. Attirée par le bruit, une dame de charité leur dit que faites-vous malheureuse, arrêtez. Il y a tant d'hommes aujourd'hui qui ont un penchant pervers à prendre obstinément Cupidon à l'envers. Tant d'hommes dépourvus de leurs virils appâts, à ceux qui en ont encore ne les enlevons pas. Ces arguments massus firent une grosse impression, on me laissa partir avec des ovations. Mais sur le chemin du ciel, je ne ferai plus un pas, la foi viendra d'elle-même ou elle ne viendra pas. Je n'ai jamais tué, jamais violé non plus, il y a déjà quelque temps que je ne vole plus. Si l'Éternel existe, en fin de compte il voit que je me conduis guère plus mal que si j'avais la foi.
Bon, dois-je le présenter? Est-ce réellement nécessaire?
Quand même,
c'était Brassens avec le Mécréant. Et vous écoutez Le Monde Merveilleux du Travail sur Radio Libertaire 89.4 MHz. La voix sans Dieu, sans maître et sans publicité.
Voilà Le Monde Merveilleux du Travail qui poursuit sa quête du catholicisme social qu'on avait entamé, comme je le disais, dans l'édito en avril et que pourrait trouver en podcast. Donc on avait largement parlé de la création de la CFTC. Cette confédération qui s'est constituée après la Première Guerre mondiale, un petit peu en contrepoint, contre-courant plutôt, peut-être de l'omniprésence de la Confédération Générale du Travail. En plus, effectivement, on était dans un contexte où il y avait eu la Révolution russe. Donc là, la première guerre s'était terminée, il y a quand même la révolution russe qui anime un petit peu, qui excite un petit peu les militants ouvriers. Et voilà, moi j'estime... Alors, certains anciens combattants ont peut-être pu aussi se rassurer, se trouver refuge auprès de ces organisations catholiques, hein, où on peut dire, je sais pas comment on peut dire, c'est pas trop mon langage, qui peuvent chercher et trouver auprès du catholicisme social quelque chose qui aura forcément manqué un petit peu pendant 4 ans. Et puis, et surtout que le mouvement ouvrier n'a pas réussi à protéger dans la mesure où, en tout cas, la CGT a quand même appelé à entrer dans l'union sacrée. Donc, il y a forcément des déçus, et peut-être qu'en allant chercher dans la foi chrétienne quelque chose qui. Un sens, peut-être. À leur vie, je sais pas, mais enfin, un sens social. C'est comme ça que j'essaie de m'expliquer un petit peu le dynamisme de ce mouvement, qui était. Bon, c'était un peu long comme introduction, donc on a vu tout ça, et notamment un des syndicats qui a été constitutif de la CFTC, c'est le CECI, le syndicat du commerce, qui est longtemps resté auprès de la CFTC, mais qui ne l'est plus aujourd'hui.
On est écarté. Dans l'entre-deux-guerres, donc la constitution de la CFTC est en fait, l'Église, quand elle en a l'habitude, va piloter en sous-marin un certain nombre d'organisations, ou laisser en tout cas des prêtres ou des catholiques engagés. Je pense à Guibert. Notamment, puisque c'est de lui dont il s'agira à propos de la JOC, Jeunesse Ouvrière Catholique, d'aller prêcher la bonne parole auprès des ouvriers, des jeunes ouvriers. D'abord ceux qui étaient... La cible, c'est ceux qui n'étaient... les ouvriers issus des provinces de l'Ouest, et puis du Midi Blanc... en fait, la tradition révolutionnaire n'avait pas prise. C'est-à-dire que on attendait encore une solution sociale à toutes les problématiques économiques de salaire, de conditions de travail, et on cherchait l'inspiration dans les évangiles et puis dans la bonne parole de selon Jésus-Christ, enfin bref, et toute la littérature sociale du 19e siècle dont on a déjà parlé antérieurement, ça continue, sauf que là il s'agissait de contrecarrer aussi un autre mouvement qui était, alors la CGT c'est un concurrent, hein. Parce que la CGT, c'est le monde ouvrier, c'est vraiment les métallos, les mineurs, les cheminots, c'est la tradition ouvrière lourde, un peu caricature, ce qui sera ensuite caricatural pour nous en tout cas, très peu représenté dans le commerce. Tu l'as dit, Cécy va recruter pas mal parce que il y a des ouvriers dans le commerce, notamment je pense à toutes les petites mains qui charrient les coupons de tissu dans les magasins, dans les grands magasins, etc. C'est pas forcément des vendeurs, mais c'est ni des... n'ont pas une fonction commerciale pure, mais elles sont là pour alimenter depuis la charrette ou le camion dans les années 30 qui arrive et qui livre, et qui servent simplement à alimenter en fait le fond, le rayon et puis la réserve. Donc il y a peu d'ouvriers, et les vendeurs en plus se distinguent dans le commerce, donc ils sont assez sensibles finalement à un discours moral, parce que c'est un peu ça, hein, le discours de la CFTC et donc des organisations ouvrières entre guillemets, c'est le côté moral et moralisateur. Et puis ils ne se sentent pas ouvriers du tout, c'est-à-dire qu'ils ont un mépris, un mépris de classe quand même, à l'égard de ceux qui sont que des manœuvres ou ils travaillent avec des bleus, enfin voilà, eux non, on décolle.
Mépris de classe parce qu'ils estiment qu'il n'y a pas de classe peut-être aussi.
C'est ça, sinon ils auraient adhéré à la CGT.
C'est notre vision. Ouais. Social.
Et favorisé par le patronat. Parce que le fait de mettre en condition d'avoir des vêtements d'un type particulier qui les classe non pas dans le... Enfin, pour moi, ça les classe davantage dans le... dans la valetaille, enfin les, comment dire, le personnel domestique, les commerciaux de cette première moitié du XXe siècle, que dans le monde ouvrier, dont ils ne connaissent pas les techniques, dont ils ne connaissent pas les codes, qui trouvent que de toute façon c'est sale, c'est bruyant, mais c'est effectivement l'usine, l'atelier, c'est sale et c'est bruyant, c'est dangereux aussi. Donc il y a vraiment une coupure à la fois idéologique, sociale et puis tout simplement pratique, quoi. C'est des métiers qui ne sont pas les mêmes.
Et puis effectivement, si il peut être difficile de travailler effectivement dans le commerce, il faut bien se représenter le commerce de l'époque, en tout cas dans les grands magasins, quelque chose d'assez différent de ce qu'on peut vivre aujourd'hui dans les supermarchés. Donc effectivement, la clientèle va plutôt être une clientèle aisée. C'est pas du tout le voilà, c'est pas pour le petit peuple. Le petit peuple, il va aller plutôt dans les épiceries de quartier. Il va pas aller dans les grands magasins. Donc effectivement, il y a une sorte de d'élitisme qui se propage parmi les employés du commerce, qui va effectivement les où ils vont sans doute se sentir assez éloignés de l'ouvrier. Alors qu'ils font partie de la classe ouvrière, bien entendu, mais ils se sentent très éloignés parce qu'ils ne fréquentent pas, ils ne côtoient pas au quotidien la même, la même clientèle. En tout cas, ils fréquentent justement une clientèle. Ils n'ont pas juste affaire à des contremaîtres, à des patrons qui leur demandent d'usiner. Ils sont en contact direct avec des gens d'un autre monde, certes, mais qui a un exemple à quel ils veulent peut-être ressembler.
Ah oui, ça, c'est sûr que c'est un prêt. Puis, paraître propre, beau, c'est aussi une façon de s'élever, de se valoriser. Hein, quand on a un compliment de la part d'une cliente ou de clients aisés à qui on a fait faire des achats... Pour plein de motifs.
Ça devait quand même pas être très courant.
Ça devait pas être courant, mais c'est... Après, il y a une hiérarchie, hein, faut pas oublier. Il y a des contremaîtres aussi, qui de toute façon, dès que le client est important, c'est plus au... on voit très bien sûr dans la littérature. C'est le responsable de rayon. Et puis après, c'est éventuellement le directeur de l'étage qui va prendre en charge la cliente, voire le directeur du magasin quand c'est une personnalité de la haute société. Donc on a, là aussi, il y a une hiérarchisation et qui est, à mon avis, tout aussi sévère, tout aussi difficile à vivre pour l'employé de commerce, hein, que l'ouvrier dans son atelier avec le contremaître, avec le chef d'atelier. Enfin bon, c'est du même tonneau, sauf que là, on n'est pas en bleu de chauffe et on n'est pas... Quoique un magasin, c'est très bruyant, hein. Et puis,
c'est pénible aussi. La nature, on a eu cesse de le répéter, la nature même de l'emploi, le commerce, on fait du commerce. Donc, c'est presque pas... Le but, c'est de vendre, de faire du chiffre d'affaires. Donc, effectivement, on a une autre approche. Et effectivement, cette approche va être sans doute... plus compatible avec effectivement le catholicisme social, où bien qu'on ait conscience qu'il y ait des travailleurs qui peuvent avoir à revendiquer des améliorations des conditions de travail et des salaires, on va créer effectivement une structure qui va pouvoir répondre à leurs aspirations, mais qui sera par d'autres voies que l'action directe et l'action collective.
Et puis, alors moi, pour l'avoir lu, le monde du commerce dans la première moitié du XXe siècle, ça allait un peu plus même qu'au XIXe, c'est où il y a un fort individualisme. C'est-à-dire que, et on est fait comme tu l'as rappelé, mais ça a encore le cas aujourd'hui, on a la culture du chiffre. Alors aujourd'hui, c'est stratosphérique, hein. Mais à l'époque, il y avait déjà la culture du chiffre, l'augmentation, il y avait une concurrence
entre rayons.
Des défis entre rayons. Tout ça existait déjà, donc, et ça n'a fait qu'augmenter, hein, bien sûr. Et dans une logique purement, ouais, purement financière, quoi, purement mercantile et financière. Donc on n'est plus, et on n'a pas ce souci d'être dans la réalisation, de se réaliser à travers, je sais pas, l'élaboration d'une pièce mécanique ou d'un, même si le travail à la chaîne, c'est quand même pas non plus là où on s'épanouit mieux. Mais bon, on n'est pas dans la réalisation de quelque chose de matériel, quoi. Mmh. Parce qu'on on prend un article qu'on reçoit, on le vend, en fait il fait que passer, et on assure voilà une plus-value pour et pas pour soi en plus, hein, donc
il y a aussi le fait de communiquer, en fait le but c'est de vendre, donc il faut argumenter pour présenter le produit sous son meilleur sous ses meilleurs atours.
Ouais.
On peut l'employer pour des objets. Ouais. Et en tout cas d'en vanter les mérites. Et le bienfait, et donc oui, il y a effectivement ça aussi, ça procède de la concurrence entre les employés, justement celui qui sera le meilleur vendeur, meilleure vendeuse, ouais, peut-être même plutôt meilleure vendeuse à l'époque d'ailleurs.
C'est beaucoup, ouais, et puis une majorité de femmes, encore que les hommes investissent petit à petit. Hein.
Aujourd'hui, oui.
Dès les années 20, en fait, il y a une augmentation des du taux d'hommes dans le commerce,
et notamment pour le travail de force, et puis le commandement peut-être aussi. Quoique.
Alors toutes les directions sont masculines, quasiment à l'époque, entre les années 20-30, toutes les directions sont masculines. Là aussi, hein, dès qu'il y a du pouvoir et qu'on a la main sur la caisse, ou parce que ça aussi, hein, il faut remonter, parce qu'à l'époque, il ne faut pas oublier non plus que tout était en espèces sonnantes et trébuchantes. Donc il y avait un risque, et on ne laisse pas l'oseille dans les mains délicates du prolétariat. Voilà. Donc oui, non, ça crée des tensions, les suspicions de vol étaient nombreuses, les suspicions réelles ou totalement farfelues, quoi. C'est,
D'où l'intérêt d'amener effectivement sur le terrain social une certaine morale.
Exactement.
Tu respecteras ton chef,
ton
patron, tu ne le voleras pas.
Ouais.
Contrairement à ces salopards d'anarchistes qui sont pour la appropriation individuelle. je plaisante, hein, quand je dis salopards d'anarchistes, vous avez compris. C'est que c'est comme ça qu'on pouvait les prendre, en tout cas les concevoir. Mais ce n'est pas ce que je pense.
Et c'est dans ce contexte, en fait, que s'inscrit la création de la JOC, donc la jeunesse ouvrière chrétienne, parce que au-delà d'une, c'est une école en fait. Hein, c'est quasiment une école de, on peut dire une école de pensée. Ben on retrouve ça chez les communistes, hein, où le parti avait des cours du soir, organisait des sessions de
jeunesse communiste, voilà, les jeunesses libertaires. Il y a effectivement cette vocation de former idéologiquement. Alors oui, le fait que ce soit jeunesse ouvrière chrétienne pour la JOC, ben évidemment, ça concerne les jeunes. Alors la particularité aussi, enfin la particularité, c'est que c'est des jeunes, mais pour des jeunes, avec des jeunes. Même si ça peut être des plus vieux qui ont créé, le but c'est que ça, je ne vais pas dire que c'est une sorte d'autogestion de jeunes, mais quelque part. Ouais.
Donc création en 1927, très vite en fait,
pas 25 en Belgique.
Non, oui, nous c'est en 27 en France.
Pardon.
Mais 25 en Belgique, oui, tout à fait. Je m'étais intéressé au périmètre français, donc je te dis que.
Tu as bien raison. J'essaie de faire le malin.
Non, mais c'est bien.
Du papier
c'est bien,
pour rien.
C'est bien. Informer correctement nos auditeurs. Et donc, il y a un essor quand même assez croissant, puisque le mouvement s'étend. Le mouvement se développe très vite. On a par exemple, je vais noter, je retrouve aussi, mais on avait noté que en 1939, donc en 12 ans, ils sont passés de quelques milliers à 270 000 adhérents. C'est énorme, c'est-à-dire qu'en 12 ans, ils ont multiplié par 10 leurs effectifs. Alors qu'ils partaient de rien. Enfin, je veux dire, c'est né en Belgique, c'est même pas né en France. Le mouvement est né à la fin de l'année 1927. Donc il y a un certain engouement. Alors c'est peut-être lié à l'époque aussi.
Oui, on sort de la Première Guerre mondiale.
Tous les projets un petit peu optimistes.
On ne veut pas effectivement revivre une guerre mondiale. Mmh. Donc effectivement, on se raccroche à des idées.
Et le mouvement de jeunesse, comme tu disais à propos des jeunesses libertaires, les jeunesses communistes, c'est quelque chose qui est très, très présent dans les différents camps politiques, différentes obédiences. Et on pense vraiment à la jeunesse. Alors, certains pensent à la jeunesse comme effectivement quelque chose qui va nous permettre d'oublier la guerre. C'est les années folles, une espèce d'insouciance ou insouciance, il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais bon, les années folles, et puis où on mise sur les camps scouts, on a cette espèce de c'est pas du virilisme, encore que les fascistes en Italie vont utiliser complètement pour gonfler leur mouvement cet engouement de la jeunesse pour.
Et puis c'est vrai que la Première Guerre mondiale a aussi quand même éliminé pas mal de bonhommes. Mm. Donc il faut de la main d'œuvre. Donc les jeunes vont trouver du travail, ils vont rentrer très tôt dans le monde du travail. C'est souvent des populations. Qui ont subi alors la grande dépression de 1873-96 et qui donc ces populations vont monter plutôt dans les villes, dans les grands centres urbains, vont trouver du travail, vont rentrer donc après la guerre de 14 en tout cas dans le monde du travail peut-être plus tôt qu'ils n'auraient pu le faire précédemment et donc effectivement il y a aussi on a aussi besoin de récupérer idéologiquement ces personnes parce que en rentrant dans le monde ouvrier ils vont être en contact d'ouvriers plus vieux qui eux sont déjà idéologisés et eux enhardis par la révolution russe.
C'est ça, oui. Toute la palette en fait depuis les libertaires les plus radicaux jusqu'aux socialistes très réformistes. Enfin, il y a une palette quand même d'ouvriers qui peuvent avoir de l'influence finalement sur les jeunes. Et un des rôles de la JOC, justement, c'est, durant cet entre-deux-guerres, de faciliter le passage de l'école à l'usine, à l'atelier, au magasin, en ayant déjà formaté un petit peu cette jeunesse. Alors, c'est soi-disant pour leur faciliter l'accès à l'apprentissage d'un métier, d'une fonction, mais c'est aussi pour distiller, les empêcher d'ailleurs d'être influencés par toutes les idées révolutionnaires, et puis surtout prendre des parts de marché, si je puis dire, puisque maintenant il y a un syndicat qui est la CFTC, c'est prendre des parts de marché en tant que salarié, ouvrier par exemple, à la CGT. Donc, et il y a tout un cursus qui se met en place, où il y a des formations du soir, où il y a l'accompagnement des jeunes qui passent de l'état scolaire à l'état d'ouvrier. Donc derrière, il y a vraiment une démarche qui n'est pas gratuite, qui n'est pas gratuite du tout.
Non, parce qu'elle est là pour répondre aussi à des craintes du patronat, de la classe bourgeoise, de tout un gouvernement paternaliste, enfin pas gouvernement, mais une hiérarchisation paternaliste, en fin de compte.
C'est ça, parce que les premières revendications dans les entreprises des jossistes, c'est de la formation, c'est-à-dire créer des petites bibliothèques pour les ouvriers, alors si possible avec des livres. Bien pensant, sans être vraiment très, on met pas la Bible dans le Nouveau Testament dans les mains, mais sur il y a une littérature dédiée à ça, de la formation aussi en sécurité et sur les conditions de travail, mais dans l'objectif d'améliorer l'outil de travail, c'est-à-dire que on s'oriente là très nettement vers une collaboration de classe. On dirait, pour faire très simple, très caricatural, c'est pour la sécurité de l'ouvrier, mais aussi pour augmenter la production et même la productivité de l'atelier ou de l'usine à la faveur du patron. Enfin, je veux dire. Et donc, il y a vraiment des demandes qui sont qui peuvent accompagner. Parce que la sécurité au travail, quel ouvrier ne demande pas la sécurité au travail? Après, ça dépend comment on présente ça et qu'est-ce qu'on a derrière la tête, quoi.
Ah, il y a la sécurité au travail, l'augmentation de la productivité, mais du coup, ça va aussi, parce que sont quand même des ouvriers, il y a quand même aussi la contrepartie, ça va être aussi des améliorations de conditions de travail, mais de salaire, voulais-je dire. Donc il va falloir s'occuper aussi de tout ça.
Et puis,
c'est bien de donner pour son patron, mais...
En contrepartie, ce qu'ils veulent, ils ne demandent pas tant d'augmentation de salaire que ça. Enfin, c'est pas l'augmentation de salaire, c'est pas ce qu'ils demandent, ou la réduction du temps de travail, ça fait figure pas. Mais ce qu'ils veulent, c'est les loisirs, du temps de loisirs. Autrement, et puis ils vont vers. C'est assez drôle parce qu'ils vont vers le dimanche. Hein. Mmh. On peut resanctuariser le dimanche, alors que. Depuis la restauration, le dimanche, il est parti un peu en vrille. Depuis la fin de la restauration. C'était plus une obligation du tout. Hein. Avant, entre 1814 et 1830, c'était une obligation de ne pas travailler dimanche, sauf pour un nombre très, très infime de métiers.
Pour la police.
Ben voilà, les vrais métiers. Indispensable. Eux vont revenir à ce genre de... En disant, voilà, le dimanche, ça peut être la coupure, ça peut se reposer, d'être plus... Voilà, ils amènent un certain nombre de propositions qui ne sont pas des propositions révolutionnaires. Et que les patrons vont, sur lesquels les patrons vont céder quand même assez facilement, parce qu'il y a évidemment, ça n'entraîne pas, ça va, déjà ils travaillent 6 jours sur 7, ça va pas, au contraire, ça va pas nuire, ça va favoriser la productivité.
Oui, avoir un petit peu de temps de repos, ça permet de recharger les accus et de repartir de bon pied, bon oeil, dès le lundi. Oui, mais je ne savais pas si Bénédicte allait nous mettre de la musique ou pas.
Oui,
mais
musique.
C'est pas obligé, non, non bah, on va qu'en terminer.
Oui.
Sois vigilante. Vas-y, continue, gros.
gros, ça me va bien. Et puis, ils vont quand même finir par demander, parce que c'est entraîné par le mouvement dans les années 30, il y a un revirement et un basculement avec la crise économique. Hein. Ils vont demander, puis quand ils se seront confrontés à la réalité, à la dureté du travail aussi. Tant qu'ils étaient jeuxistes et plein d'idéaux, etc. Mais à un moment donné, quand on a travaillé 4, 5, 6 ans en usine, on s'aperçoit que les copains de la CGT, finalement, ce qu'ils demandent, c'est pas si nul que ça, quoi. Donc ils vont finir par aussi demander des congés payés. À la faveur des... Mais surtout pour les... D'abord pour les jeunes, quoi. Dans l'objectif de fonder un foyer, etc. Après, derrière, il y a une dimension... socioculturelle, chrétienne. Mais bon, ils accrochent quand même au wagon. Donc, les temps changent. Dans les années 30, les temps changent. Et ils sont nombreux. 270 000. Donc, ils ont beaucoup progressé.
Thank you. ciel bleu. Mais tu n'es pas le bon Dieu. Toi, tu es beaucoup mieux. Tu es un homme. Tu es un homme. Tu es un homme.
Bah, c'était Arnaud avec le bon Dieu. Dans l'émission du Monde Merveilleux du Travail sur Radio Libertaire 89.4 MHz. La voix sans Dieu, sans maître et sans publicité. La voix de la... Non, la radio de la Fédération Anarchiste.
Mais la voix aussi. Le Monde Merveilleux du Travail pour la continuité du d'émission sur le catholicisme social.
Et la JOC. Particulièrement.
Et la JOC, en l'occurrence, les jeunesses ouvrières chrétiennes. Et qui se constitue en fait à l'issue de la Première Guerre mondiale. Et alors là, je lis, qui regroupe des jeunes et des adultes. Alors c'est plutôt pour l'action catholique lancée par le pape Pie XI, et en fait qui regroupe des jeunes et des adultes en association afin de tenter de restaurer l'influence de l'Église et d'anéantir la décadence morale, avec pour référence Omnia Instaurare in Christo, c'est ça, je sais pas, pour restaurer dans le Christ. Voilà, c'est... Moi, je vois pas bien, épitaphe, 1, 10, un truc comme ça.
Ouais, c'est...
voilà. Bon, enfin, en tout cas, moi, des décadences morales qui me...
Ouais, c'est
pas... est-ce qu'il faisait référence à la guerre ou est-ce qu'il faisait référence à l'Union soviétique, à la révolution russe? Je ne sais pas.
Oui, après, alors, c'est pareil. Hein, je crois qu'il y a un décalage, mais je pense que c'est une réalité... Alors c'est vrai, une restauration totale dans le Christ, complète dans le Christ, c'est comme le latin de l'Église, de toute façon, c'est pas pour rien qu'il y a de l'exégèse, c'est un truc, c'est une savanette. Tu peux traduire ça, tu peux donner tous les sens que tu veux. C'est la casuistique, quoi, c'est les jésuites au cube. Et on peut leur faire dire n'importe quoi. Mais c'est pratique. Mais je pense que même si par exagération, on pense que c'est... on va dire que c'est la recristianisation du petit peuple des travailleurs. Imaginons que ce soit ça. Bah, c'est pas réaliste, en fait. Parce que c'est ce que va donner l'autorité supérieure du mouvement, par exemple, en lien avec des évêques, des archevêques, le pape, éventuellement. Mais à la base, les ouvriers, ils sont confrontés, ce qu'on disait dans la chanson, hors antenne, ils sont confrontés quand même on travaille dans une usine, on travaille dans un atelier, dans un magasin, etc. Même c'est dur, les conditions de travail sont ce qu'elles sont, et puis finalement, on s'aperçoit que les camarades de la CGT n'ont pas tout à fait mon tort dans leurs revendications, même si on n'ose pas être aussi radical, parce qu'on n'a pas la culture de cette radicalité, parce que on a peut-être été, on a un autre parcours, enfin peu importe. Et du coup, sur le terrain, et la guerre va le démontrer, c'est-à-dire que il y a énormément de jossistes qui vont partir dans le naquis, quoi, se battre contre l'occupant nazi. Là aussi, entre l'Allemand qui est là parce qu'on lui a demandé de venir, hein, un peu comme. Et puis ceux qui décident, et puis vraiment ceux qui ont cette volonté d'anéantir les résistants, les Français ou toutes les populations occupées, ils vont très vite faire le choix. Nous, on préfère s'allier effectivement avec des camarades du PCF, avec des libertaires, avec des socialistes de je ne sais pas quoi. Et puis, on va se battre. On va faire monter des... Alors, il y aura des maquis spécifiques, hein, chrétiens, mais à dominante, on va dire. Mais c'est pas... Voilà, c'est pas... Il n'y a pas de... Le choix a été vite fait. C'est-à-dire que, vu le nombre de jeucistes tués, puis certains sont les martyrs, hein, du mouvement, bah, ils n'ont pas démérité dans le... Ce qui fait dire qu'à la fin de la guerre, ils vont être totalement... c'est un mouvement qui aura morflé dans ses membres. Certains vont même y perdre la foi. C'est-à-dire... être dans un monde de fumier à un point stratosphérique, donc tu finis par être ébranlé. Certains vont au contraire complètement devenir...
vont trouver
quelque chose
qui leur permet de tenir voilà. de comprendre l'absurdité du monde. Ouais.
Et ça va blaster, quoi. Ça, tout ce petit monde va se retrouver complètement éclaté. Mais l'avantage pour la JOC, c'est qu'à la libération, bah, ils vont faire... ils vont être un peu comme auréolés, voilà, par leur... alors que c'est un jeune mouvement, ils vont être auréolés par leur engagement. Alors c'est peut-être parce qu'ils sont jeunes qu'ils se sont engagés un petit peu... ils avaient besoin de faire leurs armes, je sais pas, je...
Tu vas plus facilement au feu, malheureusement, quand t'es jeune, que quand t'as déjà... tu t'es déjà embourgeoisé, que t'as une famille à nourrir.
Et puis voilà, donc ils vont ressortir avec davantage d'adhérents, ils vont encore augmenter leur nombre d'adhérents après la guerre, par la vertu de l'exemple. C'est-à-dire que voilà, vu leur engagement, aider à passer d'autres résistants, aider des personnes poursuivies par l'occupant à fuir, faire de la résistance passive, sachant que même quand on fait de la résistance passive, bah parfois l'occupant, ça l'agace et ça se passe mal. Il n'y a pas de petite résistance, hein, parce que c'est pas tout le monde avec un fusil dans la rue, quoi. Et donc, eux vont passer le cap et vont sortir de vraiment grandir de cette expérience. Et donc, ils vont participer au MRP, au lancement du MRP, donc le Mouvement Républicain Populaire, qui est constitué d'anciens jeucistes. Alors, ils vont se lancer en politique. Certains vont se lancer une partie des jeunes qui, bah, du coup, vont vieillir prématurément durant la guerre. Enfin, on dirait mûrir, quoi. Ils vont se lancer en politique et vont avoir des députés dans les premières élections. Alors, je ne sais plus quand c'est, mars, quoi. Mars 45, un truc comme ça. Ils vont avoir des députés. Alors, bon. Nous, c'est pas notre tasse de thé. Mais bon, c'est pour un mouvement qui est quand même très jeune, c'est. Et qui.
Ouais, reste assez dynamique, s'implique un petit peu partout, effectivement. Elle est effervescente,
fin de compte, c'est ça, oui.
Et elle essaye d'investir vraiment le champ politique, social, de toutes les manières possibles. Alors, de toutes les manières possibles, dans la négociation, en fin de compte. Tu vois, c'est comme la CFTC, qui est moins dans l'action directe, et plus dans la négociation avec le patronat. Donc, on est... Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas dans le dialogue, hein, mais effectivement, ça va. Il faut que l'action passe par de la discussion, de la négociation, quelque part dans le calme.
Oui, c'est ça.
Voilà. Et pas dans la violence de la grève, de la menace de la grève générale, et du sabotage et du boycott.
Et du coup, eux, pour ces députés élus, leur problème, c'est. En fait, on veut améliorer le sort des travailleurs aussi, mais par la voie législative. C'est un autre délire, quoi. C'est une autre façon, comme tu le disais, d'aborder la question.
Le but, c'est pas de faire la révolution.
Non.
Donc, effectivement, ils n'ont pas besoin de faire de l'action directe. Effectivement, leur méthode est en adéquation avec leur méthode de communication est en adéquation avec l'objectif visé.
Un ancien jeuciste, je lis le nom, là, Paul Bacon, va être ministre du Travail, c'est assez symptomatique, hein, pendant 11 ans. Donc, c'est long, 11 ans, hein, surtout. Il faut savoir que 11 ans, à une époque où les ministères durent 18 mois, en moyenne, c'est une belle performance. Hein, y en a qui va avoir les oreilles qui sifflent. Là, je... Hein?
Je te laisse dire.
Ben écoute. Donc en fait, en 46, ils ont 430 000 adhérents. Donc tu vois, c'est un mouvement en plein essor, en pleine expansion. La répartition se fait beaucoup, surtout dans les terres un peu conservatrices ou en tout cas pas révolutionnaires. Quoi. On n'est pas dans les bassins populaires. Le mouvement fait pas beaucoup école, moins en tout cas. Mais bon, ce qui permet, c'est un tout bénéf pour la CFTC qui, alors que la CGT connaît des turbulences, en 47, naissance de la CGTFO, 46, n'en parlons pas, 46, c'était la création de la CNT, qui renaît un peu, qui fait renaître le syndicalisme révolutionnaire. Voilà,
qui prend la suite de la CGTSR.
Exactement.
Et effectivement, alors, pour info, qui est la continuité, mais c'est vraiment la continuité, parce que les statuts de la CNT française sont absolument sont bâtis sur la charte du syndicalisme révolutionnaire de 1926, qui est constitutif de la CGTSR, en fait. Donc, c'est la... Une modification près, c'est la même, quoi. Ce sont les statuts...
Enfin...
correspondent... Alors, les statuts de 46 correspondent à ceux de 1926. Aujourd'hui, oui, ça a peut-être un peu changé.
Il est mauvais.
Puis ça va changer encore, parce qu'il va y avoir un congrès à la fin de l'année... Et je vais te dire, ça va être de mieux en mieux.
Bon.
Excusez-nous, les gars de la CNT française. Smoke. Bon.
Et donc, très vite aussi, dans l'après-guerre, le mouvement Jossis se féminise vite et en nombre.
Moi je pense que effectivement je crois que le mouvement ouvrier qui après la Seconde Guerre mondiale qui est quand même un petit peu sous l'emprise du PCF, on va dire du marxisme, d'une forme de marxisme, effectivement avec ses qui est très sclérosé quand même, ou sclérosant, ou, tu vois, bien hiérarchisé, et puis peut-être pas très ouvert, pas très tolérant. Effectivement, ce mouvement de socialisme, de catholicisme social qui s'ouvre, qui est très jeune et qui a besoin qui expérimente et puis qui a des jeunes aussi parmi, et puis qui suit en fait le développement social ou sociétal avec le vote des femmes. Donc effectivement, on commence à laisser une place. Au drame. Et effectivement, ils s'en saisissent. Je ne suis pas sûr que le Parti communiste ait eu la même ouverture d'esprit. Je ne veux pas m'avancer. Je ne connais pas trop le... Enfin, à quelques exceptions près, à mon avis. Dans les jocs, oui, il y a effectivement des... Je sais pas comment... On n'est pas des sections que ça s'appelle, je ne sais pas. Mais enfin, il y a des... Il y a des jocs féminines,
oui,
très clairement féminines.
Alors, je sais qu'il y a des fédérations par ville. Par ville et par région, ça dépend. Par exemple, Belfort, c'est une fédération. Besançon en est une autre. Un département. Et puis, le Haut-Doubs en est une autre. La Haute-Saône.
Ils sont organisés en diocèse, non?
Ça y ressemble. Sachant que, tu vois, entre la Haute-Saône, le Haut-Doubs, Besançon et Belfort, en fait, tu as des villes, mais tu as aussi des départements. Et puis, à côté, le Haut-Doubs, finalement, c'est une région, qui doit correspondre à une partie de diocèse, un agglomérat de cure, un découpage qui n'est pas celui ni de l'administration française, il n'empêche que dès la fin des années 50, je crois 58, ils vont se poser la question des retraites. C'est-à-dire que, alors que les retraites, ils ont participé hein, au grand round de 45, et puis ce qui va donner, avec la CNR, le socle de notre protection sociale.
Oui. Qui disparaît petit à petit.
Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus grand monde pour se battre, où l'on prend tellement de claques dans la gueule, puis on nous raconte tellement de conneries auxquelles on gobe, que... Et puis bon, tout est passé, faisons table rase, il faut arrêter tout ça, quoi. Faut tous ces gouvernements en l'air, et puis faire sur la base d'autre chose. Voilà. On est d'accord. Donc en fait, ils pensent effectivement au contenu des retraites, et ça, dès les années 50. Il n'y a pas de crise. Enfin, des crises, il y en a plein, mais elles sont politiques, elles ne sont pas économiques, puisque c'est l'essor industriel de la reconstruction qui est en phase d'accélération. Et puis, qui dit reconstruction, dit aussi développement de la consommation. Développement des loisirs, développement de. Voilà, on est. Et là, ils pensent quand même à la question des retraites, à peine. Même pas 15 ans après la création de cette caisse nationale d'assurance vieillesse. Quoi. Bon, les caisses de retraite, certaines existent depuis longtemps, on l'a déjà dit dans une émission précédente. Mais là, il y a ils reconsidèrent, ils font des propositions concernant les retraités. Sachant que, je vous rappelle que, c'est un souvenir qui remonte, qui est ancien déjà, la retraite des vieux, c'était pas lourd. Hein. Et c'est Giscard qui a donné un sacré coup de pouce, parce qu'avant, on crevait quand on était vieux. Il a donné un coup de pouce, et justement, derrière, il y a tout le mouvement... il y a le mouvement ouvrier classique, hein, mais il y a aussi, derrière, ce qu'il a fait, ce qu'il a décidé,
c'est les forces sociales, non conventionnelles, j'entends, ouais. Ni révolutionnaires, ni communistes, oui.
Espèce de morale, parce qu'il était quand même, c'était un centriste grand bourgeois, qui avait plutôt l'oreille vers la CFTC la démocratie chrétienne. Plutôt que vers le PC, la CGT ou la CNT. En fait, comme tout le monde demandait la même chose, c'est ce qui a fait pencher, à mon avis,
Même si eux, ils le demandent, c'est que ça doit être nécessaire.
Ouais,
il faut peut-être faire quelque chose.
Les vieux crevaient la dalle, quoi. Les vieux crevaient la retraite des vieux, c'était vraiment un crève-dalle, quoi.
Les vieux ouvriers.
Pas
les vieux milliardaires.
Ah non, les vieux ouvriers, on est d'accord. Les vieux ouvriers, c'était vraiment. C'est pour ça que les 30 Glorieuses, moi je dis souvent que les 30 Glorieuses, en fait, il n'y a que dans les bouquins d'histoire à la con. Ça m'a toujours choqué. Alors, j'en parle souvent avec Martine parce que.
Ils sont contents d'apprendre l'existence de Martine, des auditeurs et auditrices.
Donc, c'était les 30 merdeuses quand même. C'est à coquet. D'un point de vue patronal, on pouvait changer de boulot. On traversait la rue, comme dit l'autre con là. On traverse la rue, tac, tu trouves autre chose. Bon, mais t'es peut-être pas forcément mieux payé. Et puis.
Tu retrouves les mêmes conditions de travail. Quelque part, tu fais ton. Enfin, tu fais un chantage à la démission à ton employeur. Tu quittes une condition pour retrouver la même ailleurs. Ouais. Mais effectivement, tu as la possibilité de changer tous les 3 jours, quelque part. Ce n'est plus le cas.
Ouais. Et puis, il faudra attendre 1968 pour qu'il y ait vraiment. Ces événements qui sont. Je sais pas, je trouve assez.
C'est une forme de révolution culturelle, c'est pas une révolution. Ça, mais ça a permis quand même de mettre en avant un certain nombre d'idées. Et de remettre peut-être
les revendications aussi.
Des revendications et une idéologie libertaire qui quand même, c'était quand même pas mal cassé la gueule depuis la propagande par le fait, en fait. Hein. Ça, et puis la répression des lois scélérates, il faut quand même admettre. Même s'il y avait, il y a quand même eu une persistance, ça a été très difficile quand même de maintenir la barque un peu.
Ah, oui. Et donc, il a fallu attendre quand même le post 68, les années 68-69, pour que... À l'aune de ce tremblement et puis de cette exigence qu'il y ait une avancée salariale significative, quoi. Avant, c'était on pouvait changer de boulot, mais c'était pas. Faut pas oublier qu'il y avait encore des bidonvilles, hein, jusqu'en 73, quoi. Jusqu'en 76, même. Des bidonvilles. J'allais à l'école, j'avais des potes, ils venaient des bidonvilles, quoi.
Tu peux dire toi-même, hein.
Je n'ai pas de bidonville, mais
j'étais en bordure. Tu avais un seau en alu, en guise de cartable, mais on le sait, mais c'est pas grave, on t'en veut pas.
Moi j'habitais dans le 15e, quoi, la bordure de la zone, et ils venaient des bidonvilles, quoi, c'est terrible, quoi. C'est terrible. Alors c'est marrant, hein, pour s'amuser, dangereux, mais marrant, quand on était petit, mais... donc il y a tout ça.
Il mettait des ramors sur la tête pour jouer à David Croquette.
Des ramors préalablement évidés, hein, éviscérés.
Ah, qu'est-ce qu'il savait se marrer à l'époque.
Et ouais. Donc ouais, c'était un peu dégueu, quoi. Donc là, les 30 glorieuses, c'est une fable. C'est un discours de patron, ça. C'est un discours de patron.
Ben, d'ouvriers qui n'a pas vraiment compris ce qui
se passait. Hein. Ouais. Pas de salle de bain, des trucs comme ça. Ouais, c'était en commun dans les immeubles, hein. Pas même à Paris. Hein. Les chiottes sur le palier, quoi. Ça, c'est une réalité. Hein. Donc, on raconte ce qu'on veut, mais c'est...
C'est bien de mythifier, d'imaginer. Mmh. Mais effectivement, la jeunesse pouvait quitter le domicile familial, trouver du travail, vivre de son propre revenu. Quand elle avait un petit métier, hein, je pense, je côtoyais beaucoup de bouchers quand même, qui étaient jeunes en 68, et qui effectivement, non seulement ils l'idéalisent, mais effectivement, quand ils restituent ce qu'ils ont vécu, c'est totalement ce que tu disais, c'est effectivement, on change de patron, et même encore maintenant. Mmh. Alors, les personnes ne l'ont pas vécu, les jeunes qui ont mon âge, voire un petit peu plus jeunes, ne l'ont pas vécu, mais ils continuent de répéter ce que disaient les anciens.
Parce que
leurs parents aussi l'ont vécu et ont entretenu cette idée que tu changeais de patron, comme si effectivement changer de patron, tu avais un meilleur salaire. Non, tu n'avais pas un meilleur salaire. Tu avais les mêmes conditions de travail, tu changeais juste de patron.
C'est ça. Tu avais l'impression de changer.
Mais tu ne punissais pas parce que le patron, justement, il récupérait un autre travailleur aussi, hein, qui avait la même. Voilà. Alors plutôt que de lutter effectivement pour son émancipation, pour son éducation, pour. Tu changeais de patron. Voilà. Alors maintenant, tu ne peux plus le faire. Tu courbes les chines puisque tu n'as pas cette culture ouvrier, tu as perdu cette culture de lutte. Ou tu l'as peut-être jamais eu, même d'ailleurs.
Plutôt. Donc là, les jeuxistes, puis les jeuxistes vont participer donc à cet effort de reconstruction. Ils ont un peu, c'est l'esprit scout, quoi, allez, on relève les manches et puis ils sont assez, c'est comme ça. Après la foi, c'est une espèce d'alchimie, hein, qui va leur permettre de continuer à exister jusqu'aux événements de 68, quoi. Globalement, où là ils vont être confrontés à d'autres cultures, que ce soit des contre-cultures ou je sais pas quoi, enfin d'autres mouvements, la résurgence, comme tu le disais, du mouvement libertaire, puis des idées.
Et puis peut-être aussi d'être confronté à une manne ouvrière issue de l'immigration, qui n'est pas non plus forcément de la même culture idéologique ou spirituelle, je ne sais pas comment. Mais bon, enfin, après, il y a moins de différence entre deux religions qu'une religion et puis une idéologie. De gauche.
Athéiste. Et puis, ce qui va les ébranler aussi, c'est toute cette période de la décolonisation. Parce qu'il va pour si tu t'informes un peu, c'est possible. Hein. Il se passe des trucs dégueulasses partout. Quoi. Que ça soit la décolonisation en Indonésie, les anciennes colonies, franchement, on n'en parle pas beaucoup. Mais il faut lire certains bouquins. Bon, peut-être qu'on fera un truc sur la décolonisation un jour. C'est les Néerlandais, en fait, la puissance coloniale néerlandaise, c'est quand même, ils sont conduits comme des salopards. Quoi. Dans les Indes, ce qu'on appelle l'insulinde, l'Indonésie, ils sont vraiment conduits comme des salopards. Les Anglais aussi. Les Anglais aussi. On porte notre part, hein, en tant que. Historiquement, enfin, j'entends, la France en tant qu'État aussi, prend sa part, mais il ne faut pas oublier qu'on n'était pas les seuls et que tout ce mouvement était dégueulasse parce que c'est un mouvement où on n'a pas réussi, y compris, et ça a heurté les jossistes, par exemple, parce que en tant que chrétien, bon, on prêche, là, surtout catholique, c'est. On prêche l'amour du prochain, etc. Et là, ils se prennent un mur et ils voient, par exemple, ceux qui ne voulaient pas aller à l'armée, les
objecteurs de conscience.
J'ai lu des témoignages concrets. Tu vois, ils n'étaient pas insensibles à ce truc-là. Il y a un truc. Ouais, le mec, c'est pas, il y va pas, c'est pas un caprice, quoi. C'est parce que derrière, il y a vraiment une idée de.
Prise de conscience, pas vouloir être formé à tuer, en tout cas.
Ouais, et puis accompagner l'État dans une mission qui n'a pas de sens. Enfin, je veux dire, donc là, ça va aussi pas mal les travailler. Il y a toujours une frange des jossistes, de toute façon, qui va être. Qui est conservatrice, hein, parce que les. Bon, faut.
Ça dépend de qui ils sont un petit peu drivés.
C'est ça, ouais. Mais il y a des fédérations qui sont beaucoup plus. Qui participent à des manifestations contre telle action en Algérie, telle.
Qui a une vision peut-être. Justement.
Humaniste.
Voilà. C'est ce que j'allais dire, enlever le mot de la bouche.
Voilà. Donc ça aussi, hein, les événements vont... et puis, à partir des années 70, on va assister à une remise en question, parce que là, les jeunes sont devenus vieux, et donc de nouveaux jeunes alimentent le jossisme, et où on va avoir une espèce de refondation... où les mouvements, justement, l'aspect libertaire et l'aspect conscience va influer sur la JOC. Et puis en même temps, comme la CFTC, ça va commencer un peu à perdre de son pouvoir d'attraction.
Et de son auréole.
C'est lié à tous les mouvements féministes, les mouvements de libération, les jossistes comme la CFTC vont baisser en audience. Mais, voilà, après, ça a infusé quand même, ça fait partie. Ils ne sont pas révolutionnaires, ouais. Mais une partie d'entre eux, finalement, était assez. Par conscience, était assez plus favorable à des mouvements comme les mouvements libertaires qu'à des mouvements de type stalinien ou parce qu'ils vont comprendre aussi ce qui se passe dans les années 70-80 dans tout ce qui est de l'ordre du sentier lumineux, de toutes ces dérives un peu où en fait là ce qu'il s'agit c'est tout le travail en Union soviétique mais aussi Pinochet, enfin je veux dire en fait ils s'aperçoivent qu'il n'y a pas de c'est pas une question de finalement tant d'idéologie que ça mais c'est il n'y a pas de différence entre un Pinochet et un Guzman et puis un Staline ou un Brejnev qui était quand même le dernier dinosaure, hein. Et d'ailleurs, on va dire un dinosaure. une tête de dinosaure. Et donc ils se sont, ouais, ça a fait éclater hein, en partie ce, parce que tu perds tes repères, ça ébranle la foi, la libération des corps, je sais pas si c'est toujours pareil, faut prendre des pincettes pour dire ça parce que post 68 donc. Les mouvements féministes au féminin, la femme qui cherche à se libérer de son corps, etc.
Il y a une modification sociétale qui fait que ils ont plus tout à fait leur place, ils se trouvent plus à leur repère.
Exactement.
Et c'est vrai qu'il y a eu aussi et peut-être aussi que l'Église catholique n'a pas fait en sorte de suivre le mouvement parce que ça devenait peut-être trop libéral. C'est vrai que il y a je voulais évoquer comme ça vite fait les prêtres ouvriers. Il y a eu une période où, alors c'était une dizaine d'années, hein, je crois, de 45 à 54, même pas 10 ans. Il y a eu quand même un mouvement de prêtres ouvriers, donc des prêtres qui s'intègrent à la vie professionnelle. Et donc juste après la libération. Mais ça va pas non plus. Alors, je pense que ça s'inscrit effectivement dans l'effervescence de l'après Seconde Guerre mondiale, où effectivement il y a les jocks se multiplient. Malgré tout, je me sens qu'en 54, il y a quand même l'Église qui dit hey, stop quoi, on va arrêter les prêtres ouvriers. Donc, alors après, il y a peut-être en 61, il y a peut-être un choix avec l'encyclique Mater et Magistra. Alors, ça a peut-être réintroduit un petit peu, mais c'est vrai que c'est pas ce qui est favorisé
on
quand même.
Méfie,
c'est
pas le méfie.
Ouais. Donc malgré tout, je crois que l'Église reste un petit peu sur des bases, enfin l'Église catholique,
conservatrice,
très très conservatrice, pardon.
Elle est pareil, l'Église n'est pas uniforme, elle est traversée par des courants qui parfois s'affrontent violemment. Hein. Tout est en jeu, c'est-à-dire pour maintenir le dogme dans sa pérennité, c'est Tetris hein, tous les jours pour le pape et la hiérarchie.
Moi je connais pas la succession des papes hein, tout ça, c'est pas trop mon truc quand même, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des papes aussi qui sont plus ou moins réactionnaires, conservateurs, réactionnaires, et qui effectivement veulent peut-être revenir à une église omnipotente, présente,
c'est ça, et où le dogme est un
ne doit pas être
remis en question. Et puis, tu as des pontificats, justement, qui ont accompagné les jocistes, où la papauté et l'Église, en tant que corps structuré, elle peut être à la fois libérale, voire révolutionnaire, entre guillemets, par rapport aux minorités ethno-linguistico, machin chose, et puis super rigide et peut-être même réactionnaire, par exemple sur des questions comme le mariage, comme la famille, comme tu vois, c'est un truc de, c'est tout n'est pas aussi tu vois, c'est pas une rigidité partout. Et par exemple, tu prends Jean-Paul II, c'est quelqu'un qui a favorisé l'éclatement du bloc de l'Est avec tout son réseau catholique. Voilà, super puissant, mais en même temps qui était un réactionnaire complet sur l'organisation de l'Église, sur le magistère, sur sur le pouvoir de l'Église dans la société. Ah, et d'un autre côté, il a dit faut lutter contre l'enfermement de Pierre-Paul Jacques dans les goulags et machin, et faire en sorte que ça n'existe plus.
Alors, c'est vrai que ce mouvement les jocistes et de prêtres ouvriers, ça s'est développé aussi dans un contexte de guerre froide.
Ouais.
Hein. Alors, je rappelle quand même aux auditeurs, aux auditrices, que vous êtes bien sur Radio Libertaire et non pas sur Radio Notre-Dame.
Ouais, et puis alors, les jocistes ont favorisé l'apprentissage après la guerre. L'apprentissage. Moi, je dis toujours... alors, c'est vrai qu'on n'est pas sur Radio Notre-Dame ni sur Radio Courtoisie, mais...
Je fais signe de croix, là.
Ouais, mais... comment il s'appelle Céline.
Oui.
J'aime bien Céline. En tant qu'auteur.
Ah oui.
En tant qu'auteur. Il a, Il retrace dans ses... il faut les trouver dans ses bouquins, parce que c'est quand même fouillis. Hein. Des témoignages sur l'apprentissage, franchement, ça donne tout sauf envie d'être apprenti.
C'est un crédit. Ouais. On avait déjà évoqué.
Puis j'ai toujours retrouvé d'autres ailleurs. Ouais. Et où les mômes, ils prennent des torgnoles pour l'apprendre. Vraiment, l'apprendre.
C'est apprentissage.
Et l'autre, il le montre, il dit, regardez comme c'est dégueulasse, quoi. Comment tu veux qu'ils ne se sauvent pas et qu'ils ne deviennent pas repris de justice après avoir pris des tartes dans la gueule comme ça? Enfin, en gros, je résume. Quoi. C'est. Voilà. Donc, non, l'apprentissage, ouais, c'est, je suis très, très, très circonspect, moi, sur cette activité. Donc, les jeux-6 favorisent des apprentis, demandent toujours à nouveau des congés supplémentaires. Là, c'est bien. Donc, ils vont appuyer toute la. Pour le repos du travailleur. Donc, de l'ouvrier principalement. Et puis, alors sans être révolutionnaire, toujours pareil, hein, ça passe par les. Soit ça passe par les diocèses, soit ça passe par les assemblées. Hein. Pour être toujours légaliste. Hein. Faut pas faire de vagues, pas de. On fait pas des grèves, des piquets, des choses comme ça. Non, on est. On est quand même.
Ils vont construire rapidement décalage avec la réalité totalement. Sociale. Et je pense qu'effectivement, leur déclin va arriver avec les années 60.
Ouais. Et se marginaliser.
C'est comme ça que la CFTC, d'ailleurs, va subir une crise et va se transformer en CFDT, mais qui va quand même subsister en tant que CFTC maintenue.
Très minoritaire. Hein.
Très minoritaire, mais avec des syndicats du commerce puissants, puisqu'il y a le CECI qui est resté jusqu'en 2013 au moins, quelque chose comme ça. Mais effectivement, c'est un déclin où, effectivement. Je peux vous dire que je le regrette. Hein. Je ne sais pas.
Bien au contraire.
Mais voilà, c'est. On constate, en tout cas. Et même la CFTC, puisqu'on va revenir à la CFTC, puisque c'est avec eux qu'on avait entamé la précédente émission, eh ben, effectivement, elle va accueillir d'autres communautés spirituelles que des catholiques. Aujourd'hui, on va trouver. On trouve de tout. Je crois qu'en fait, c'est même plus tant la spiritualité qui dirige les militants, si on peut les appeler comme ça, vers la CFTC.
Les adhérents.
Les adhérents. Même plutôt un opportunisme, d'ailleurs. Et je crois qu'effectivement, alors je ne sais pas quand, vraiment... ils ont perdu un petit peu cette notion de catholicisme, de catholicisme social, ou je ne sais plus comment tu l'as appelé aussi.
Ça s'est dilué. Ça ne pouvait que se
diluer. Maintenant, effectivement, il n'y a plus de.
Non, il n'y a plus de discours.
Même dans les représentants, ce sont des personnes, des fois, qui ont un sentiment religieux, mais pas catholique.
Ouais. Mais ça, c'est des mutations.
Mais sociales, c'est pas ce qui domine, hein, de toute façon, même dans le discours. Je crois que ça reste malgré, en fait, très individuel, mais c'est pas dans le. Mais par contre, il n'y a pas la CFTC et dans le CECI, il n'y a pas cette tradition de lutte qu'on peut avoir dans des syndicats issus de la CGT. Et donc ça donne un petit peu tout et n'importe quoi. C'est très opportuniste de toute façon.
L'engagement
est très opportuniste.
Je suis entièrement d'accord avec toi, et on le voit bien à travers le surgeon majoritaire, la CFDT. Aujourd'hui, c'est un.
Pour moi, c'est un syndicat de droite.
C'est un marais conservateur, opportuniste, qui brasse large, donc qui veut fâcher personne, qui est carriériste aussi. C'est-à-dire que plus tu as de voix, plus tu es dit représentatif, puis ils représentent qu'eux-mêmes, plus tu es représentatif, plus tu as des subsides publics. Ça, c'est aussi, il faut arrêter avec ça, quoi. Ton syndicat, il vit parce que tu adhères et que tu payes tes cotises. C'est pas parce qu'avec mes impôts, j'ai pas envie de financer le. pas ce que tu en penses, très cher, mais...
Ils s'adressent à Bénédicte, là, je dis aux auditeurs, aux auditrices, puisque tu désignes du doigt très cher, c'est
Bénédicte. Oui, mais je voulais qu'elle se...
Comment ça se soupire. Montre du doigt.
Elle se soupire, mais non, je veux dire un grand signe de...
Mais elle ne s'est pas fait, elle s'est pas manifesté.
Ouais.
Tu l'as compris.
C'est, donc, c'est pas grave. Si on a 5 minutes, je dirais bien quelque chose sur les jeunesses agricoles catholiques.
Alors, il reste 10 minutes, on aura ouais, quelques annonces.
D'accord.
Et puis moi, j'aurais bien aimé aussi donner quelques noms.
Une phrase, Eric. Une phrase, c'est pas possible.
Oui, Eric, une phrase, mais une longue phrase. Allez, vas-y.
Bah, la jeunesse agricole, création en 1929 de la jeunesse agricole catholique française.
Je vais c'est la Jacques, alors.
La Jacques, oui. Donc, alors là aussi, hein, on est dans un microcosme. On a un microcosme, mais qui, évidemment, j'ai un article sous les yeux, la jeunesse agricole catholique à 90 ans. C'est un chercheur qui l'étudie, mais on sent qu'on est sur des effectifs picrocolins. Hein. La jeunesse agricole. Aussi, ils ne sont pas nombreux.
Oui, bah, je crois qu'il y en aura de moins en moins.
Ouais.
Alors, puisqu'on se dirige vers la fin et qu'on a largement consacré cette émission à la JOC, je voulais quand même évoquer quelques personnalités, hein, des anciens présidents et présidentes de la JOC. Et la JOC la JOC F. À la JOC de France, en fait.
Oui. Hein.
Voilà. Et dont notamment. Alors
En Belgique, ça ne s'appelle plus JOC. Hein. Ça s'appelle. Enfin, ils ont gardé JOC, ils ont gardé l'acronyme.
Non, ça ne veut plus dire jeunesse ouvrière catholique.
Il n'y a plus d'ouvriers, il n'y a plus de catholiques.
Oui, ils ont changé, mais ils ont gardé l'acronyme.
C'est ça. Ouais.
Oui.
Bravo, bel exemple. Bel exemple.
Alors, il y a quand même quelques personnalités qui ont fait partie des JOC. Alors, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Mais bon, là, c'est. À la limite, c'est presque pas étonnant. Alors, j'ai tiré ça de Wikipédia, hein, ça vaut ce que ça vaut. Mais il y a Sophie Binet, quand même, qui est l'actuelle secrétaire générale de la CGT. Ça donne un petit
peu... Le monde est petit.
Voilà, moi je me suis dit, les CGT, ils sont tous issus du Parti communiste. Bah, faut croire que non. Voilà, donc, bah, ils ont tous fait carrière, comme tu disais, un petit peu comme tu l'as évoqué, sont entrés dans les JOC, et ils ont eu des bonnes carrières de... Théo Braun, je ne connaissais pas, permanent de la JOC, durant l'occupation, dirigeant CFTC, puis CFDT, ministre, président du Crédit Mutuel. Tu vois, ça mène quelque chose. Jacques Delors, syndicaliste à CFTC-CFDT, ministre de l'économie de 80 à 84, président de la Commission européenne 85-94. Voilà. Il y a beaucoup de militants syndicalistes. Cécile Duflot. Militante politique écologiste française, ancienne ministre de l'égalité et des territoires et du logement.
Ouais.
Voilà. Et puis Jean-Yves Le Drian aussi, militant jociste, député du Morbihan de 78 à 2007, maire de Lorient de 80 à 98. Voilà, président du Conseil régional de Bretagne 2004-2012, ministre de la Défense 2012-2017. Puis encore là, ça n'arrête pas. Et ça mène à tout, tu vois, hein? Par contre, des mecs qui ont fait partie de la CNT ou de la Fédération anarchiste, ils n'ont pas une grande carrière.
Je dis, vous n'avez pas choisi le bon syndicat. Hein.
Ah bah ouais. Hein.
Mais c'est pour ça qu'on est parti.
Alors c'est pour ça qu'on l'a choisi, et puis c'est pour ça qu'on n'y est pas resté. bref. J'espère que mon patron ne m'écoute pas.
Ouf.
Bon, j'ai gardé.
C'est un jociste, lui.
Je vais pas demander.
Alors
mon patron, il pourrait, parce que ce sont des catholiques, ça, ils se revendiquent catholiques.
Ah, voilà,
et le directeur, j'ai vu là dans son bureau, il a. j'avais jamais rencontré une direction qui était si politisée que ça.
Mm.
D'habitude, tu vois, c'est un petit peu comme les employés du commerce, on est là pour faire du fric, machin. Mm. Mais là, il y a quand même une dimension politique que j'avais jamais rencontrée auparavant. Et très régionaliste.
Mm.
Et il vient de Vendée.
Oh bah. Et puis du fou.
Mais, et le Puy du Fou et le ministre de l'Intérieur.
Ah,
et donc là, j'ai vu dans son bureau, il y a eu une photomontage faite par un de ses, par le, apparemment le sous-directeur, où tu as en fait là le, c'est président de la République actuel, Macron.
Ouais.
Ils ont remplacé la tête par celle de Retailleau.
Ah oui.
Voilà. Wow. C'est. Il aime beaucoup Retailleau.
Ah oui.
Le jour, j'ai montré mon. Je lui ai montré, j'avais posé mon téléphone comme ça. Sur son bureau, je voyais qu'il regardait. Antifasciste. Je dis, ah oui, mon cher, tourné pour lui.
Pour pas le traumatiser.
Mais... Ah, qu'est-ce qu'on rigole. Bon, bref.
Bon,
ben, je crois qu'on va conclure là-dessus, sur ces amusements et ces chats qui miaulent.
Oui. Quelques annonces.
Ben, quelques annonces. Alors, tu en as une à nous faire, là, puisque c'est lié aux événements du Bourget. Nous t'écoutons.
Donc, le 20, 21, 22 juin... un pré-programme, donc le vendredi soir, meeting et intervention contre le salon du Bourget, bien sûr. Cantine et bar, ça s'impose. Samedi, manifestation à 13h, départ de la bourse de travail de Bobigny. 16h-23h, concert contre les marchands d'Aumore, fête de la musique. Et dimanche, des tables rondes, des animations entre 11h et 19h, des ateliers et une assemblée de clôture. Suite du programme à venir, dit-on.
Juste une information comme ça, parce que on avait invité dans le cadre d'une émission consacrée au gueux, à les gueux, un acteur de la Fédération française des motards en colère. Donc, je vous informe quand même qu'il y a encore 80. Alors déjà, les ZFE pour l'instant ont été
suspendus,
mais 80% des motards boycottent encore les contrôles techniques. Voilà, sur les 2,3 millions de motards, il n'y en a que 500 000 qui ont fait de contrôle technique. Donc c'est la lutte continue. Il y a quand même un bon mouvement de boycott. Voilà, je vous le dis. Samedi 28 et dimanche 29 juin, parce qu'on n'aura pas l'occasion de le dire, puisque notre prochaine émission, ce sera le 30 juin. Et bien donc, samedi 28, dimanche 29, vous pourrez assister à Publico en fête d'été et qui fera sa grande braderie de livres et de disques au 145 rue Amelot, donc à Paris. Ça, c'est pour les franciliens. Et puis...
On peut acheter par correspondance aussi. Hein.
Oui, bien sûr. Ouais. Mais là, ils ne pourront pas bénéficier de rencontre des camarades. Mmh. Et puis, des livres qui vont de 1 à 5 euros. Mmh. Donc c'est le moment d'enrichir sa bibliothèque. Sache-le, Bénédicte, on va encore avoir des bouquins à la maison.
on lit le bonheur sur son visage.
Il y en a partout. En plus, je ne les lis pas. Et puis, bon, voilà. Et vous retrouvez le colloque qui a eu lieu le week-end précédent, c'est-à-dire avant-hier, puisque c'était samedi. Le colloque Art, Anarchie et Émancipation, qui a été mis en ligne par notre camarade Monique, sur le site de Radio Libertaire, dans l'onglet Événements spéciaux. Donc, vous pouvez retrouver, vous pouvez même podcaster. Tous les débats, toute la présentation, les animations, et on vous rappelle que Nicolas Eprendre a fait aussi est intervenu sur Élisée Reclus, qu'on avait reçu aussi dans notre émission, c'était le 2.
Une très excellente émission.
Voilà. Donc, vous allez pouvoir compléter ça. Que vous dire d'autre?
On se retrouve.
On se retrouve le 30 juin pour une émission. Ce sera les 5e lundi du cinéma social.
Très bien.
Qui tourneront autour de deux films, donc Sacco et Vanzetti et l'assassinat de Trotsky. Alors, on va appeler ça le meurtre comme outil de prévention de la révolution, de
préparation,
le meurtre et la révolution. Alors Trotsky, c'est pas mon pote, Sacco et Vanzetti plus. Mais bon, on va en parler quand même, parce que c'est quand même Joseph Losey qui a fait le film L'assassinat de Trotsky, avec le regretté Alain Delon, qui n'était pas de gauche non plus, mais qui n'était pas forcément le pire des producteurs. Voilà. Bah, peut-être qu'on pourra évoquer tous ces gens. Mmh. Et puis, tous ces parcours et tous ces films, et notamment les camarades américains.
Mmh. Vous avez tous, à un moment donné ou à un autre...
Au revoir, merci à tous et à toutes.
Bonne soirée. Ciao.
...avec le mouvement anarchiste, enfin les mouvements libertaires.
D'abord, faut plus de gouvernement, puis faut plus non plus de république, plus de sénat et plus de parlement.
Et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal du...
Partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la
révolution.